Merci beaucoup, chers amis. C'est un plaisir d'être là pour annoncer la parole. Heureusement, la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, même si l'image coupe, même si c'est une image inférieure, ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'écouter la parole de Dieu. Un bonjour tout particulier à l'équipe à Louvain-la-Neuve. Si vous regardez ceci, on a une super équipe qui va former le noyau de l'Église et on vous dit bonjour. C'est super de suivre. Nous allons prier et puis nous allons commencer notre étude de ce psaume 52. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour ta parole. Nous te louons parce qu'elle est vraie. Nous te louons pour ce psaume écrit par David. Merci pour ta bienveillance, surtout démontrée à la croix de Jésus-Christ. Nous te prions que nous puissions nous confier encore davantage dans ta bienveillance tous les jours. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, que faire lorsque le mal se déchaîne? Que faire lorsque le mal se déchaîne? Comment réagir quand les malfaiteurs prospèrent tout en commettant des abominations? On pense à la mort de George Floyd au début de l'été et le racisme qui existe encore de nos jours. On pense à l'injustice qui règne dans certains pays d'Afrique ou aux gens qui travaillent dans les conditions terribles afin d'extraire le matériau nécessaire pour nos smartphones. Ou bien aux grosses multinationales qui exploitent les habitants de ces pays afin de pouvoir jouir de leurs richesses. On pense aussi à la corruption dans la politique. La liste est sans fin. Comment réagir? Et comment réagir quand le mal nous affecte personnellement? Peut-être que votre patron vous a demandé de mentir en falsifiant les chiffres pour plaire à un client. Vous avez refusé de le faire et du coup vous êtes viré ou vous n'avez plus de prime de fin d'année. Ou peut-être vous êtes victime d'abus à la maison ou que vous en avez été victime quand vous étiez enfant. Comment réagir? David, l'auteur de ce psaume, a fait face aux actes d'un méchant. Et il a rédigé ce psaume dans ce contexte-ci. Nous lisons en versets 1 et 2 quand David a écrit ce psaume. Au chef de cœur, poème de David, lorsque Doeg l'Édomite vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Ahimelech. Alors peut-être ça ne nous dit pas grand-chose cet épisode-là, donc il faut se plonger dans le contexte. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül, un gaillard très impressionnant au premier abord, mais qui s'est finalement révélé très décevant. Il a désobéi aux ordres très clairs de Dieu. Dieu lui a annoncé la fin de son règne. Dieu l'a rejeté. Et Dieu choisit un berger peu impressionnant, David, pour le remplacer. Et Samuel, le prophète, oint David d'huile pour symboliser qu'il allait devenir roi. Voilà David qui devient tout d'un coup héritier du trône d'Israël. Et il vint un guerrier géant appelé Goliath. Vous connaissez sans doute l'histoire. Saül est tout impressionné. Il invite David à venir chez lui, vivre chez lui au palais royal. Petit à petit, David connaît un succès militaire remarquable. Le peuple a même inventé une petite chansonnette qui compare les exploits de David à ceux de Saül. Je ne vais pas le chanter, je ne connais pas la mélodie. Mais voici, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est un peu comme la chanson des supporters du club d'Anderlecht. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent, qui aiment Anderlecht. Mais voici une chanson qu'ils chantent. Et je vais chanter ça. Et le standard va être champion tous les 25 ans, tous les 25 ans. Voilà, je ne sais pas si vous avez capté l'essentiel de ça, mais le Standard va être champion à un moment donné, mais tous les 25 ans. Tous les 25 ans. On voit clairement qui est la meilleure équipe aux yeux de celui qui chante. Il en va de même pour le peuple d'Israël. Le peuple est devenu supporter de David plutôt que Saül. Et ça énerve Saül au plus haut point. À 3 reprises, il lance sa lance sur David sans succès. Il le rate. Il envoie ses spires, ses hommes de main pour tuer David chez lui, mais celui-ci arrive de s'échapper de justesse. Il prend la fuite. Il arrive à la ville de Nob, là où il y avait le sanctuaire, le tabernacle, la tente que Dieu avait fait construire Israël après leur sortie d'Égypte. C'est là où Dieu demeurait parmi son peuple. Et David fait croire à Ahimelech, le grand prêtre qui était là, que le roi Saül l'avait envoyé au tabernacle avec une mission top secrète. Peut-être qu'il raconte cela à Ahimelech pour le protéger au cas où il y aurait des soucis par la suite. Mais Ahimelech l'accueille et l'aide. Il lui donne du pain et l'épée de Goliath. Ensuite, David poursuit sa route et se réfugie dans une caverne pour se cacher de Saül et de ses hommes. Mais pendant que David se trouvait au tabernacle, nous lisons qu'il y avait quelqu'un d'autre qui y était aussi. Vous savez, dans un film ou une série, lorsque le réalisateur veut nous faire comprendre que le personnage sur scène est le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il met toujours la musique un peu dramatique comme ça, moins de lumière dans la pièce, et on se dit, ah oui, lui, il doit y être pour quelque chose. Ce doit être un sale type. Et ce serait un peu la même chose ce jour-là au tabernacle, parce que nous lisons que là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait retenu devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, le plus important des bergers de Saül. Oh, ça n'annonce rien de bon, ça. Et en effet, une fois de retour auprès de son maître Saül, ce Doeg trahit David et Ahimelech en révélant que David était à Nob, qu'Ahimelech l'avait aidé. Et que se passe-t-il ensuite? Saül cherche activement quelqu'un pour se débarrasser d'Ahimelech, le grand prêtre. Ces hommes de main refusent de porter la main sur un grand prêtre. Et qui se porte volontaire? C'est Doeg, l'Édomite. Il massacre 85 prêtres en un seul jour. Quelle méchanceté, quelle cruauté, quelle ruse. C'est ça le contexte dans lequel ce psaume a été rédigé. Relisons encore les versets 1 à 2. Au chef de cœur, poème de David, lorsque Doeg, l'Édomite, vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Ahimelech. Trahi par Doeg et face au massacre de tous ses prêtres, David prend sa plume pour rédiger ce psaume. Et dans ce psaume, nous voyons ce qu'il faut garder à l'esprit quand le mal se déchaîne. Premièrement, nous voyons au verset 3 à 6 que le méchant se vantera. Le méchant se vantera. Au verset 3, c'est comme si David parlait à Doeg. Pourquoi te félicites-tu du mal, héros? Il l'appelle héros de manière ironique. Tu penses être un guerrier, quelqu'un de fort, mais tu te félicites du mal que tu as fait. Souvent, quand on se félicite, c'est pour des bonnes choses que l'on a faites, n'est-ce pas? Peut-être il s'agit d'une promotion au travail ou un examen qu'on a réussi, ou bien une aide qu'on a pu apporter à un voisin qui était dans le besoin. On se dit intérieurement, c'était bien. Mais ici, Doeg se félicite du mal qu'il a fait. Et c'est ce que font les méchants. C'est la même chose aujourd'hui. Nous pouvons penser à ce mouvement que l'on voit notamment aux États-Unis, où les femmes s'encouragent à parler haut et fort de ton avortement. En anglais, c'est « shout your abortion ». Une des initiatrices du mouvement, Amelia Bono, a expliqué à la presse comment ce mouvement a vu le jour. J'ai écrit sur un coup de tête sur Facebook que j'avais eu un avortement l'an dernier, que ça avait été une très bonne expérience, que je n'ai aucun regret et que je n'en ai pas honte. Et déplore que le sujet de l'avortement soit toujours abordé avec tristesse, honte ou regret. Donc au lieu d'exprimer de la tristesse, de la honte ou du regret, elle se félicite du mal qui consiste à mettre fin à la vie d'un enfant dans le ventre de sa maman. Ou on peut penser à la ville où nous sommes en train d'implanter une église, Louvain-la-Neuve. Comme toutes les universités en Belgique, il y a des cercles, des groupes d'étudiants qui font subir toutes sortes d'épreuves humiliantes aux jeunes de la première année lors des soi-disant baptême d'étudiants. Ils boivent pendant pendant des semaines à Alexée. Et les étudiants qui ont fait le baptême en sont fiers. Ils disent que cela encourage le dépassement de soi ou la solidarité. Ils encouragent tous les autres à le faire à leur tour. Ils se félicitent du mal qu'ils font. Le méchant se vantera. Et David nous donne une description de la méchanceté au verset 4 et 5. On voit deux aspects notamment. Le premier, ce sont les paroles destructrices. Les paroles destructrices. Nous voyons clairement que David se focalise sur les paroles des méchants. Au verset 4, il parle de la langue de Doeg. Au verset 5, il dit que Doeg aime la fausseté plutôt que la parole juste. Au verset 6, Doeg aime toutes les paroles mordantes, blessantes. Les paroles de Doeg sont cruelles et destructrices. Ta langue n'invente que malice, que méchanceté. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si on passe même un peu de temps sur Twitter, on réalise à quel point les gens qui s'expriment sont en colère. À quel point ils utilisent des paroles dures et blessantes pour se moquer des autres ou pour les humilier. David décrit leur langue comme un rasoir affilé. Cela vous est-il déjà arrivé de vous couper malencontreusement avec un rasoir? Ça fait très mal. Et David dit que la langue des méchants est comme ça. Elle est aiguë. Elle coupe. Mais quelqu'un a dit que les bâtons et les pierres peuvent casser vos os, mais les mots ne vous blesseront jamais. Mais nous savons tous que c'est faux. Nous nous souvenons sans doute tous d'une critique ou d'une parole méchante ou injuste lâchée par quelqu'un à notre égard, et cela nous fait encore mal quand on y pense. Les paroles des méchants sont mordantes, selon le verset 6. Leurs mots détruisent. Et les paroles des méchants sont révélatrices d'une réalité intérieure, une réalité cachée peut-être. C'est leur amour mal placé. C'est frappant, David utilise deux fois la même expression, verset 5, « Tu aimes le mal plutôt que le bien », verset 6, « Tu aimes les paroles mordantes ». Vous voyez, nous avons été créés pour aimer. Nous voyons l'amour tout autour de nous. Que ce soit l'amour entre amis, l'amour des parents vers leurs enfants, l'amour dans le couple. Dieu nous a créés pour aimer et pour l'aimer par-dessus tout. Et ce qui se passe lorsque nous rejetons Dieu, ce n'est pas que nous cessons d'aimer. C'est l'objet de notre amour qui change. Nous, pécheurs, nous avons des objets d'amour mal placés. Nous le voyons au verset 5. « Tu aimes le mal plutôt que le bien, la fausseté plutôt que la parole juste. » Verset 6. « Tu aimes les paroles mordantes. » Au lieu d'aimer le bien, le méchant aime le mal. Ce qui remplit son imagination, c'est la cruauté. C'est imaginer toutes sortes de façons pour blesser les gens, pour leur faire du mal, afin d'acquérir plus de puissance et de domination sur eux. Nos rêves et nos aspirations révèlent souvent ce pourquoi nous vivons. Le méchant se vantera. Il utilisera les paroles destructrices, révélatrices d'un amour mal placé. Ce genre de mal existe bel et bien à notre époque. Et quelle est notre réaction instinctive en voyant le mal autour de nous? Un désir de se venger peut-être, ou le sentiment que Dieu ne fait rien et qu'il les laisse faire. Mais si nous avons vu que le méchant se vantera, David veut nous montrer au verset 7 à 9 que Dieu le détruira. Dieu le détruira. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Revenant, The Revenant, avec Leonardo DiCaprio. Le film raconte l'histoire vraie de Hugh Glass, un trappeur lâchement abandonné par ses camarades et laissé pour mort. Ses camarades avaient aussi tué son fils devant ses yeux. Mais Glass va revenir à la vie et entamer un périple de 300 km dans une nature hostile, uniquement dans le but de se venger. C'est pas le genre de film qu'on passe si on veut passer une soirée sympa entre amis pour rire. Mais on s'attend peut-être à ce que David entre dans le même jeu que Uglas et qu'il va vouloir se venger contre Doeg. Après avoir lu les versets 3 à 6, on s'attend peut-être à lire au verset 7, c'est pourquoi je te détruirai. Mais il n'en est rien. Qui est l'acteur au verset 7? C'est Dieu. David ne cherche pas à se venger personnellement. Pourquoi? Car il sait que Dieu, loin d'être inactif, va intervenir pour juger le méchant. Le verset 7 est dévastateur pour Doeg et pour les méchants. David utilise pas mal d'images pour illustrer ce que Dieu fera à Doeg. On lit le verset 7. Aussi Dieu te renversera pour toujours, il te terrassera et t'arrachera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. D'abord, Dieu renversera Doeg pour toujours. Dieu le détruira. L'image ici évoque une démolition d'une tour qui n'est plus utilisée. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mes parents m'ont emmené à un endroit où on pouvait assister à une démolition. C'était celle des tours de refroidissement d'une centrale électrique. Il y avait peut-être trois tours qui allaient tomber. Et pour nous, les enfants, on pensait que c'était vraiment super. Ces tours qui s'écroulent en l'espace de quelques secondes. Il n'y a rien de mieux pour les garçons que regarder cela. Mais David dit que c'est ce que Dieu fera aux méchants. Ils pensent être intouchables, que personne ne peut les arrêter. Oh, combien ils ont tort! Dieu les renversera pour toujours. Aucun moyen de se rétablir après. Et l'image suivante évoque le processus d'expulsion des occupants d'une maison. Dieu te terrassera, il s'emparera de toi, il t'arrachera de ta tente. On peut peut-être s'imaginer un milliardaire qui a fait souffrir énormément de gens par la corruption, la cruauté, l'oppression, en train d'être expulsé de sa maison pour toujours, jeté à la rue ou en prison. Et enfin, la dernière image parle de la mort. Il te déracinera de la terre des vivants. Peut-être que durant le confinement, vous avez profité pour un peu planter des graines dans le jardin ou sur la terrasse. Mais parfois ça pousse et c'est chouette, parfois ça ne pousse pas. Et il faut déraciner la plante pour la brûler. Et c'est ça ce que Dieu dit qu'il va faire aux méchants ici. Doeg a tué 85 prêtres. Il sera tué par Dieu. La méchanceté ne paie pas. Peu importe si on peut réussir dans cette vie. Peu importe si on est aimé par plusieurs sur les réseaux sociaux. Dieu interviendra pour juger les méchants. Parfois, nous en avons un avant-goût dans cette vie, quand les empresseurs sont enfin renversés à terre. Mais ce qui est certain, c'est que lors du jour du jugement, à ce moment-là, Dieu interviendra définitivement pour régler les comptes, pour faire justice et pour punir les méchants. Paul, en 2 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, a parlé du jour où Dieu affligera ceux qui ont affligé les chrétiens. Et lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus, ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et Paul écrit cela pour encourager les Thessaloniciens. Et n'est-ce pas ce que nous désirons tous, la ruine de ceux qui ont fait du mal aux autres? Pourquoi est-ce que les livres et les films qui parlent de la victoire de l'opprimé sur l'oppresseur résonnent tant chez nous? Nous savons tous au plus profond de nous que cet univers n'a seulement du sens si les malfaiteurs seront punis un jour. Voyons la réaction du peuple de Dieu face à la destruction des méchants. Au verset 8, nous lisons, les justes verront Ils auront de la crainte et se riront de lui. Les justes verront ce qu'il arrivera aux méchants. Et ils en sont avertis. Ils ont de la crainte. Pas qu'ils pensent que tout d'un coup Dieu va faire de même avec eux, même si c'est exactement ce que nous méritons, n'est-ce pas? Mais nous sommes avertis que la mentalité de ce monde ne paie pas. Ce qu'il faut faire pour réussir dans cette vie ne constitue pas le vrai succès aux yeux de Dieu, notre juge. Ici, ce sont des justes qui se moquent du méchant. Non pas parce qu'ils trouvent cela amusant, mais parce qu'il a enfin eu ce qu'il méritait. Le verset 9, c'est un peu comme si les justes écrivaient l'épitaphe du méchant pour servir d'avertissement à tous ceux qui sont présents aux funérailles. Ah, voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et se protégeait par sa ruse. Cet homme ne pensait pas du tout avoir besoin de Dieu. Cela rime bien avec notre société, n'est-ce pas? Au lieu de se confier en Dieu, il se confie en ses grandes richesses. N'est-ce pas ce que font la majorité des gens qui vivent dans l'Occident affluent? On vit pour le CDI, l'appartement, la maison, le week-end, la voiture de société, les vacances, la prépension, le golf, le vélo, ses loisirs. On se confie dans ses richesses. Au lieu de prendre Dieu pour protecteur, l'homme moderne se protège en utilisant la ruse ou la méchanceté. Il vit pour lui-même dans un monde qui croit que Dieu est mort. Mais Dieu aura le dernier mot. Ne suivons pas la voie des méchants. Elle mène à la ruine éternelle. Le méchant se vantera, mais Dieu les détruira. Et que n'est-il de David dans tout cela? Comment s'en sort-il? Et c'est la dernière vérité que nous voyons dans ce psaume. Le croyant prospérera. Le verset 10 et 11. Le croyant prospérera. J'ai longtemps hésité avant de donner ce titre à cette section, car il existe une théologie qui croit que Dieu a promis une vie matériellement bénie aux croyants en Jésus-Christ, que Dieu a promis la santé, la richesse et la réussite dans cette vie. Et selon cette théologie, si nous ne prospérons pas dans cette vie, c'est à cause d'un manque de foi. Selon cette théologie, Dieu ne souhaiterait jamais qu'un de ses enfants passe par la souffrance ou l'épreuve. On appelle cette théologie l'évangile de la prospérité. C'est un faux évangile. Ce n'est pas biblique et c'est pastoralement cruel. Dieu ne promet pas la bénédiction matérielle dans cette vie si nous avons suffisamment de foi. J'espère que vous êtes au clair sur ce point. Et pourtant, au verset 10, on lit le propos suivant. Et moi, je suis comme dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. L'olivier est une plante qui vit très longtemps, parfois même jusqu'à 1500 ans. 1500 ans. Même si sa durée de vie moyenne est d'environ 500 ans. David est planté. Il va durer longtemps, pas comme Doeg. Rappelons-nous le verset 7. Dieu te déracinera de la terre des vivants. Rien de tout ça pour David. Il est comme un olivier. Et un olivier verdoyant en plus, qui s'épanouit, qui porte du fruit, plein de vie. N'avons-nous pas ici la promesse d'une vie heureuse et bénie pour le croyant? Ben, il est vrai qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait donné sa loi à Moïse en disant « Si vous y obéissez, vous serez bénis. Si vous y désobéissez, vous serez maudits. » Et cela n'est plus le cas après la venue de Jésus, car Jésus a pris sur lui la malédiction que nous méritons par sa mort à la croix pour nous donner des bénédictions spirituelles. Maintenant, en attendant la nouvelle création, où nous recevrons les bénédictions matérielles également. Mais même pour David, rappelons-nous ses circonstances au moment d'écrire ce psaume. Il était en cavale, il fuyait le roi d'Israël qui cherchait à le tuer. Il devait se cacher dans une grotte On ne peut vraiment pas parler d'une vie bénie et abondante. Et pourtant, David nous amène plus loin. Car il dit qu'il est comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Il ne se trouve pas dans la maison de Dieu pour l'instant, mais il connaît la présence de Dieu, même face à l'épreuve, à la souffrance, même menacé de mort. Et le croyant en Jésus-Christ connaît cette même intimité avec Dieu grâce au Saint-Esprit qui habite en lui. Nous sommes appelés dans le Nouveau Testament le temple du Saint-Esprit. Et nous avons chanté tout à l'heure, « Couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. » Le Saint-Lieu n'est pas un bâtiment ici sur terre, mais c'est la présence de Dieu qui est toujours avec nous grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Par la foi dans le sacrifice de Jésus, nous sommes, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, dans la maison de Dieu à tout moment. Et nous sommes donc comme cet olivier verdoyant dans la présence de Dieu. Il s'agit d'une sécurité que personne et rien ne peut nous enlever. Si nous sommes en Christ, nous sommes comme cet olivier verdoyant. Nous allons vivre éternellement dans la maison de Dieu. Donc face à la vie, ou à l'épreuve ou à la mort, le croyant en Jésus-Christ prospère spirituellement. Mais comment peut-il prospérer spirituellement? Mais David termine ce psaume avec trois caractéristiques du croyant. Au verset 10, nous voyons la confiance du croyant. Il dit « Je me confie dans la bienveillance de Dieu éternellement et à perpétuité. » La bienveillance de Dieu se traduit par son amour infatigable pour son peuple qu'il s'est choisi. Le croyant, au lieu de se confier dans ses richesses, se confie dans l'amour infatigable de Dieu. Démontré suprêmement lorsque le descendant de David, Jésus-Christ, le Messie lui-même, est mort pour nous offrir la vie éternelle. La confiance du croyant est dans la bienveillance de Dieu qui dure tout le jour. On l'a déjà vu au verset 3. Dieu tout le jour, et dont nous pourrons nous y confier éternellement et à perpétuité. Qu'il est solide, le roc sur lequel nous nous tenons, n'est-ce pas? Peu importe nos circonstances que nous traversons actuellement. Dans la confiance du croyant. Ensuite, la louange du croyant. David se tourne vers Dieu, là, au verset 11, et lui dit, « Je te célébrerai éternellement, car tu as agi. » David célèbre Dieu, il le loue. Pourquoi? Car il a agi, ou car il va agir. Dieu n'avait pas encore frappé Doeg à ce moment-ci, mais il allait le faire. Et Dieu est intervenu dans l'histoire humaine. Lorsque le Messie est mort sur la croix, il a vaincu ses ennemis, le péché et la mort. Et il a sauvé son peuple. Et ce qui est juste remarquable, c'est qu'il a donné l'occasion aux gens comme nous, nous qui sommes des méchants par nature, c'est Jésus qui le dit. Peut-être on a lu les versets 3 à 6 en disant, bah, les méchants, ça c'est pas moi. En fait, c'est nous tous par nature. Et la bienveillance de Dieu, les œuvres grandes de Dieu, la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, permettent aux méchants que nous sommes de nous réconcilier avec Dieu. N'avons-nous pas envie de le louer, de le chanter, car il a agi, et car il agira lors du retour de Jésus pour mettre fin définitivement au mal et pour nous amener dans sa présence à perpétuité. La confiance du croyant, la louange du croyant. Et ensuite, l'espérance du croyant. Vous voyez ça à la fin du verset 1. Je veux espérer en ton nom parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. David ne fait pas confiance à ses capacités en lui-même pour changer la situation. Il fait confiance dans le nom de Dieu. Il y a toujours un avenir meilleur, une espérance pour le croyant en Jésus-Christ. La pire chose qui nous arrive dans cette vie n'est jamais la dernière chose qui nous arrivera. Nous avons la promesse d'hériter la nouvelle création avec notre Dieu qui sera au centre. Oh, à quel point Dieu est bon à l'égard de ses fidèles. Le méchant se vantera. Il faut s'y attendre dans ce monde. Ne soyons pas surpris lorsque nous voyons le mal se déchaîner autour de nous. Comment sommes-nous tentés de réagir? Penser que Dieu ne fait rien? Vouloir nous venger nous-mêmes? Non, c'est Dieu qui détruira le méchant. Il aura le dernier mot. N'écoutons pas le discours de ce monde qui dit que tout ce dont nous avons besoin, c'est la réussite et l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce psaume est un psaume rempli de contrastes choisis pour nous faire réfléchir. Comment voulons-nous vivre? De quel côté sommes-nous actuellement? Il y a deux types de confiance. Le méchant se confie dans ses richesses, verset 9. Mais le croyant se confie dans la bienveillance de Dieu. Deux arbres. Le méchant sera déraciné par Dieu. Le croyant est comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Deux domiciles, le méchant sera arraché de sa tente. Le croyant est dans la maison de Dieu. Deux protections, le méchant se protège par sa ruse. Mais le croyant prend Dieu comme son protecteur. Il y a deux louanges possibles, le méchant se félicite du mal qu'il fait. Le croyant célèbre Dieu. De quel côté vous situez-vous? Je sais de quel côté j'aimerais être. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il est temps de changer de camp. Vous pouvez le faire aujourd'hui même. En vous détournant de votre méchanceté et en vous confiant dans l'amour infatigable de Dieu démontré lorsque son Fils est mort sur la croix. Rien n'est plus simple, rien n'est plus urgent. Et si nous sommes croyants en Jésus-Christ, quel encouragement dans un monde rempli de mal, n'est-ce pas? Le méchant se vantera, mais Dieu le détruira. Et le croyant prospérera. Comme un olivier verdoyant, peu importe les circonstances de notre vie, qui peuvent être très pénibles, et peut-être c'est le cas pour vous qui regardez ce matin. Mais nous pouvons nous confier dans la bienveillance de Dieu, le louer, car il a agi et il agira encore lorsque Jésus-Christ reviendra. Et nous pouvons espérer en son nom, car il est bon à l'égard de ses fidèles. Au 16e siècle, il y avait deux chrétiens qui ont écrit ce qu'on appelle le catéchisme de Heidelberg, un outil pour aider les parents à enseigner la foi à leurs enfants. Le format, c'est une série de questions et de réponses présentant l'enseignement biblique. Voici la première question, la première réponse avec laquelle nous allons terminer. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés, m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle, me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Ils ont compris le psaume 52. Est-ce que vous l'avez compris? Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour ce psaume. Merci pour les rappels ici. Merci parce que tu nous rappelles que le méchant se vantera, le mal va se déchaîner dans ce monde, mais que tu détruiras le méchant. Tu auras le dernier mot dans ta justice parfaite. Combien nous te louons pour cela. Et nous te louons parce que tu donnes une chance, tu donnes le temps encore à ceux qui sont méchants comme nous, de nous confier dans ta bienveillance, de nous confier dans l'œuvre suprême de ton amour, le sacrifice de ton Fils sur la croix, pour nous donner accès à toi, pour pouvoir devenir comme cet olivier verdoyant dans ta maison, Et nous te prions que peu importe les circonstances de notre vie, que nous puissions nous confier dans ta bienveillance éternellement et à perpétuité. Que nous puissions te louer, car tu as agi et tu agiras encore lors du retour de ton Fils. Et que nous puissions espérer en ton nom, car tu es bon à l'égard de tes fidèles. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.